Le choc des idées.
Oui, le choc des idées avec Martin Biron. Hello, Marty.
Allô, tu sais, des fois, là, la pause n'est pas assez longue parce que François et moi, on avait une maudite de bonne discussion sur les sables, puis qu'est-ce que je ferais comme DG, mais ça, on peut pas te le dire, c'était durant la pause.
Ah, mais ça, c'est vraiment chiant, pas pour moi, mais pour les auditeurs.
Un moment donné, cet été, on en reparlera, OK?
Ouais.
La semaine avant le repêchage, on se reparlera de tout ça.
Parfait, parfait. Pour t'accompagner, tu l'as dit, tu l'as bien présenté, RDS, François Gagnon. Hello, Frankie.
Salut. Moi, je peux te donner une petite bribe de ce qu'on disait. Je te l'avais dit, Cousins n'était pas bon.
Ouais, c'est drôle parce que j'ai parlé séparément à Martin et François ici à BPM. Et François m'a dit, moi, j'ai reparlé avec Martin, là, puis je respecte son opinion, mais je suis pas d'accord sur Cousins.
mais ça, il y a une chose qui est importante de souligner, c'est que, et puis on le vit quotidiennement, tout le monde, là, quand tu couvres une équipe de hockey, okay, tu es prêt à reconnaître le talent de certains joueurs, mais ce sont les défauts qui te marquent le plus parce que tu vois toujours les mêmes défauts. Alors, moi, il y a des joueurs chez le Canadien au fil des ans que j'ai souvent décriés et que des fois, j'étais peut-être un peu trop dur parce que les mêmes défauts me ressortaient tout le temps. Puis, la même chose, tu vois un gars pas souvent, il t'impressionne. Là, tu te souviens, quand c'est un gars d'une équipe adverse, tu te souviens des flashs positifs qu'il t'a donnés. Puis là, un gars comme Martin qui le voit tous les jours, t'as dit « Hey, t'es un peu gagnant, là. » C'est parce que moi, je le vois tous les jours, puis je vois ses défauts. Alors, c'est là que c'est important, le travail des dépisteurs professionnels, entre autres, de s'assurer de dire à son boss, « Tu sais, tu l'as vu une fois, puis t'as impressionné, mais moi, j'aimerais ça tempérer un petit peu. » Ou à l'inverse, tu l'as vu une fois, puis tu l'as trouvé pas bon, mais il est en mesure de nous aider. Et ça, là, ça, c'est ça qui se passe en ce moment, je dis en ce moment, mais depuis une semaine, 10 jours, 2 semaines, dans tous les bureaux des 32 directeurs généraux de la Ligue, ils parlent à tous ces dépisteurs pour savoir, toi, tu penses quoi de lui, puis lui, puis lui, puis un gars va dire, ben vous pensez trop de bien, puis moi, je vais essayer de tempérer ça. Et c'est les équipes d'état-major qui ont, je te dirais, le plus beau bagage d'informations qui vont faire le moins d'erreurs demain ou depuis 2 semaines, parce que tout le monde va faire des erreurs.
Tout le monde fait des erreurs. Je vais te dire, là, moi, j'étais en 4e année, je pense. Puis mon école, on avait été à l'Université Laval. Puis on étudiait le même livre qu'un groupe là en français à l'Université Laval étudiait. Puis on avait été faire la classe avec eux autres. Puis à la fin de la journée, ils ont dit la différence entre les universitaires puis les écoles primaires, c'est que l'école primaire, eux autres, ils pensent une affaire puis ils l'écrivent tout de suite. Puis ceux à l'université, ben ils étudient puis ils regardent le pour et le contre et tout ça. Moi, j'étais encore à l'école primaire. Je fais une idée puis je pars là-dessus.
Pas le temps d'une dissertation. C'est comme quand j'étais en français au cégep puis on m'avait dit, Martin, tu vas lire le livre. J'ai fait « Ish ». Après ça, tu vas nous écrire 2 textes. Oh boy! Un analytique, 1 critique. Ah, ouais! Hey, c'est compliqué, je n'aurais écrit un. Moi, je t'aurais analysé ça puis critiqué ça dans le même texte.
Aïe, aïe, aïe!
Ah, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, j'ai une cellule. Elle marche de temps en temps, mais bon. Messieurs, les deux, vous pensez que les Oilers vont gagner ce soir? Alors, on vous a posé une question un peu différente pour essayer de vous attraper pour pouvoir parler du match de ce soir. Sachant que les Oilers ont accordé une moyenne de 4,2 buts par match depuis les 10 dernières parties, le Canadien marquera au minimum 3 buts ce soir. Absolument pas pantoute. Marty B.
Absolument. Parce que les Oilers, là, ça va se réveiller, ça va marquer des buts. C'est ça le problème, je pense, que le Canadien va affronter à soir avec McDavid, Draisaitl, Lyman, puis la gang qui va se réveiller offensivement. Mais il en donne. Il en donne, puis dans le filet, c'est pourri. Alors, je me dis que le Canadien, ça marque dernièrement, ça joue bien offensivement. Les gars, ils ont Suzuki, c'est un leader, puis il va. Alors, je me dis qu'ils vont en remarquer 3 minimum. Mais c'est de l'autre bord que je pense que ça va avoir de la misère. Puis les Oilers l'attendent, le Canadien, à soir. Là. Fait que c'est pour ça. Moi, je pense que c'est un 4-3, 5-3 d'un filet désert, Oilers à soir. Pour ça, j'ai dit que le Canadien en marque quand même 3 contre les Oilers.
Ouais, j'ai peur du réveil. T'sais, McDavid n'était pas revenu chez eux depuis le dernier match. Il était sur la route avec la Coupe des 4 Nations. Après ça, il est allé rejoindre son équipe sur la route. Premier match à maison, c'était de la boîte. J'ai vraiment peur au réveil des Oilers ce soir, François, qui ont accordé 4,2 buts lors des 10 derniers matchs. Le Canadien marquera un minimum de 3 buts ce soir. Absolument, pas peine toute, M. Gagnon.
Je l'ai dit pas pantoute pour l'ensemble de tout ce que tu viens de dire. Parce que si tu fais la nomenclature, ils ont perdu le dernier match avant les Quatre Nations et ils n'en ont gagné qu'un seul depuis le retour. Donc, ils ont gagné une fois en sept parties. Et cette victoire-là, c'est une victoire de 3-1. Les Oilers n'ont pas perdu parce qu'ils n'ont pas marqué de but. Ils en ont 16, là, marqués dans les 6 ou 7 derniers matchs. Ils ont perdu parce qu'ils ont arrêté de jouer défensivement. Et c'est vrai qu'on regarde Skinner, puis il n'est pas rassurant. Mais Skinner s'est rendu en finale d'association il y a 2 ans, en grande finale l'an dernier. Donc, c'est un gardien qui est capable de faire les arrêts. Mais ce n'est pas le gardien qui va être capable de réparer les erreurs de tout le monde. Et c'est ça le problème des Oilers. Alors, pour gagner ce soir, parce que je crois que les Oilers vont gagner, ne serait-ce que la loi de la moyenne, le Canadien vient d'en gagner 5, ils sont dus pour perdre. L'autre bord, ils perdent à tous les jours, ils sont dus pour gagner. Mais au-delà de ça, il va falloir que ça se resserre défensivement. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois que du côté du Canadien, on va être mieux surveillé que lors des 2 derniers matchs contre Buffalo et que du côté de Draisaitl et McDavid, il y aura explosion offensive.
Sachant que ni Ekholm, Klingberg, c'est pas une grosse perte, là, sont pas là. Ça fait des paires de défenseurs: Darnell Nurse, Evan Bouchard, Brett Kulak, Ty Amberson, et troisième paire, Cam Denning, Troy Stetcher.
Mais c'est parce que tu regardes les défenseurs et c'est justement pour ça que, au niveau de la structure, Chris Knobloch est obligé aujourd'hui de rappeler à ses joueurs, t'es là, la défensive, c'est pas juste Skinner
Mais non.
ou Pickard si c'est lui qui est là, c'est pas juste votre groupe de 6 défenseurs ou de 5 écarts parce que Bouchard, c'est pas un défenseur, c'est un ailier, là. Alors ça va être à tout le monde. Vous avez vu l'effet saillant du dernier match. Écoute, Draisaitl qui revient en faisant du zigzag un peu à la Patrick Laine dans sa zone pour regarder, je me souviens pas qui a marqué contre lui, mais je veux dire, il le regarde faire. C'est insensé, là. Alors, et c'est comme ça qu'un coach doit ramener son équipe et dire, là, il faut avoir une meilleure structure. Il faut qu'on gagne, oui, mais il faut qu'on commence par mieux jouer dans notre zone. Ce qui arrivera à l'autre bout, là, on a le talent pour y arriver, mais il faut empêcher l'équipe adverse de marquer des buts contre nous.
OK. Messieurs, vous avez vu, l'équipe de Salt Lake City a signé Karel Vejmelka. Un gros contrat quand même, 5 ans, je ne me trompe pas. J'ai été surpris de ce contrat-là. Fait un gardien de moins disponible sur le marché des transactions. Les Oilers doivent acquérir un gardien de but avant la date limite des transactions. Absolument pas pantoute. François.
Moi, je ne le dis pas pantoute, et pas parce que j'aime Skinner, là. Skinner n'est pas Patrick Roy. Mais ce que je viens de dire de Skinner, il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley à une victoire de la Coupe. Et je regarde les gardiens qui sont disponibles autour de la Ligue nationale. Tu sais, que ce soit Jordan Binnington, Gibson s'est blessé, là, hein, là, le dernier match. Là, je ne sais pas à quel point ça peut contrecarrer les plans des Ducks de l'échanger
Quel
ou d'une autre
arrêt.
formation de l'acquérir. Mais je ne vois pas des gros plus par rapport à Skinner. Binnington, OK, il a gagné la Coupe des Quatre Nations. Après 2 premiers matchs, il y en a bien, puis moi, je suis le premier qui était prêt à le changer puis à donner le filet à Adin Hill. Alors, c'est pas parce qu'il a gagné la Coupe des Quatre Nations que tout de suite, je me dis, les Oilers doivent sauter dessus ou une autre formation et que ça va être une grosse plus-value par rapport à ce qu'ils ont.
Marty, je te pose la même question.
Ouais.
Il y a de moins en moins de gardiens de but disponibles. Les Oilers doivent acquérir un gardien de but avant la date limite des transactions. Absolument pas payer tout.
Absolument. Puis c'est parce que l'année passée, oui, Stuart Skinner s'est réveillé en deuxième moitié de saison. Puis cette année, il ne s'est pas réveillé en deuxième moitié de saison. C'est ça la différence. Tu sais, au moins l'année passée, à la date limite des échanges, tu dis, tu sais, Skinner, il s'en va dans la bonne direction. Cette année, je regarde ça, je me dis, ouh, ça fait mal. Puis tu n'as pas de backup, là. Tu as Calvin Pickard, là. C'est pas un gars que tu peux envoyer dire, bon, ben, si Skinner, ça va pas bien, je vais envoyer Calvin Pickard là-dedans. Alors, oui, je pensais à John Gibson. Mais tu sais, Gibson était blessé déjà la semaine passée. Il joue hier soir. Il se fait blesser dans un arrêt, là, à un 2 contre 1. S'est fait ramasser. Ça va pas bien pour Gibson. Il y a toujours des blessures. Mais si t'es les Oilers, tu veux aller chercher Gibson, tu ne changes pas Skinner. Tu dis pour cette année, parce qu'on pense avoir une équipe qui peut peut-être gagner. Tu dis, on va y aller, là, puis ça va être tough avec le plafond salarial. On va y aller Gibson, Skinner, puis on s'organisera cet été, puis on prendra une décision. Mais là, il y a peut-être un autre gardien de but que moi, si j'étais les Oilers, je regarderais, pour peut-être faire la même affaire. C'est Peter Mrazek. Parce que là, ils ont été chercher Spencer Knight à Chicago, puis Mrazek, lui, il reste une année de contrat l'année prochaine, mais je pense bien que tu es capable de l'acquérir là, puis de le flipper cet été à une équipe qui a besoin de profondeur dans le filet si tu veux pas le garder.
Mm. Il en reste de moins en moins. Tu sais, tantôt, j'ai parlé du contrat signé par Vejmelka. Il y a également eu un swap, un switch. On s'est échangé deux gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Les Panthers de la Floride ont continué d'échanger des gardiens. Ils ont échangé Chris Driedger, qui venait de devenir le substitut à Bob. Ils sont allés chercher Kaapo Kekkonen. On sait qu'il avait été également cherché Vitek Vanecek pour pas grand-chose.
Ouais, ça, c'est un troisième. Tu sais, Driedger, c'était comme pour être le numéro 3. Puis, il n'a pas une bonne saison dans la Ligue américaine. Fait que Kaapo Kekkonen, c'est un numéro 3. Je pense qu'il était à Winnipeg.
Oui,
hein?
En arrière de Comrie. Puis de
en arrière de Comrie, c'est ça.
C'est deux polices d'assurance qu'on a échangées. Là, ça me fait penser le genre de transaction que ton entraîneur des gardiens n'aime pas ton troisième, son troisième gardien. Il aime mieux un troisième gardien à l'autre bord. Les deux GM s'appellent, hey, ça te tend dessus, ça, ping, bing, bing. C'est une affaire qui prend 10 minutes puis c'est réglé.
Exact.
Mais tu sais, tu parlais de Mrazek, Martin. Moi, s'il essayait de sortir un gardien de Chicago, c'est plus Söderström que j'essaierais d'aller d'aller chercher. Et je ne sais pas si les Hawks seraient. Mais tu sais, les Hawks ont déjà Brossois qui est blessé. Parce que ça fait un bout même qu'il n'a pas joué. Et ils sont allés chercher Spencer Knight qui va devenir leur numéro un de facto. Là. Alors, est-ce que tu y vas avec Knight et Söderblom ou si tu es prêt à laisser partir Söderblom pour avoir une meilleure valeur en retour? Mais encore là, est-ce que c'est vraiment une nette amélioration sur Skinner? Moi, je ne suis pas convaincu de ça.
Le temps va nous dire. Le temps va nous dire. Puis, sais-tu quoi? S'il fait un bon en série, on va dire, ah, ils ont bien fait de garder Skinner. S'ils se font sortir en première ronde, parce qu'à un moment donné, j'avais regardé, ça partait demain matin, c'était Avalanche Oilers. Je n'ai pas regardé aujourd'hui si c'est ça, si ça commence demain. Hein. C'était Avalanche Oilers. Pas sûr que les Oilers seraient sortis de là gagnants. Fait qu'on aurait fait.
Si ça commence demain, là, les Oilers, c'est contre les Kings.
Encore.
Encore.
Hey, je pense que ça fait 3 ans en ligne. Il me semble que ça fait 3 ans que je vois Edmonton pour la première ronde. Philippe Dano est tanné de me voir. C'est pas compliqué.
Ben, c'est ça.
Messieurs, on vous a posé une question qui ne se répondait pas par absolument au papa tout. On s'est dit, François va être content. Quelles sont vos deux équipes pour accéder aux séries dans l'Est comme équipe repêchée? Commençons par Martin Biron.
OK. Ben, comme équipe repêchée, je pense les Rangers de New York. Puis je peux même dire que peut-être les Rangers vont finir troisième dans la métropolitaine. Alors, j'ai aimé repêcher présentement, mais ils vont courir après les Devils, puis ça va être tough, les Devils, de dire on reste à notre place. Ma deuxième équipe, c'est les Red Wings de Détroit. Puis je dis pourquoi les Red Wings? Parce que j'ai vraiment, vraiment été impressionné quand Todd McLellan a pris la barre des Red Wings. Le rendement des Kane, des Larkin, des Lucas Raymond, de DeBrincat, des vétérans. Cam Talbot, il fait un travail très, très impressionnant, d'après moi, là, pour ce que les attentes étaient. Même Alex Lyon. Alors, je me dis, c'est Détroit qui va rentrer. J'ai pas regardé la cédule. Tu sais, à cette temps-ci de l'année, souvent, je regarde, je me dis, c'est qui a la cédule la plus dure, la cédule la plus facile. J'ai pas vu ça, mais j'ai un feeling que c'est Détroit qui va rentrer. Présentement, tu sais, ils sont pas là, là, mais je pense qu'ils vont rentrer.
Dans le cas de Détroit, je pense que Talbot et Lyon paraissent mieux parce que sous McLennan, on joue mieux défensivement devant eux. À chaque fois que Talbot, il y a eu une équipe comme les Kings, comme à Minnesota, où on avait une meilleure structure défensive, il était meilleur. Mais aussitôt qu'il se ramassait, mettons, à Ottawa, il avait l'air de Talbot. Ou à Edmonton, il avait l'air de Talbot. Fait que je pense que tu as 100% raison là-dessus. Mais les Rangers, je comprends que Jack Hughes, ça vous inquiète, mais Adam Fox n'est pas là. Pour les Rangers, tu me diras.
Ça va les aider.
Oui, c'est ça, Maladie. Il n'a pas été bien bon. Et peut-être qu'il était blessé, puis c'est pour ça qu'il n'était pas bien bon, parce que c'était très décevant. François, c'est toi qui nous as répondu quelque chose de spécial. Puis Martin a vendu un peu la mèche. Quelles sont vos deux équipes pour accéder aux séries dans l'Est comme équipe repêchée?
Moi, j'ai mis les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey.
Oh!
Donc, les Devils sortiraient du top 3 en haut. Dis-moi pas, toi, comme Martin, t'aurais les Rangers, là.
Je suis convaincu que les Rangers vont aller là. Écoute, y a-tu quelqu'un au mois d'octobre qui plaçait pas les Rangers en série? Honnêtement, là. Hein, je m'en souviens pas, là. Les
C'était
Rangers.
probablement top 2 dans la métropolitaine, les Rangers. C'est là,
Et
c'est
voilà.
Washington-Caroline, c'était probablement
Rangers
Rangers-Caroline.
Caroline. Exactement. Moi, ben, puis regarde, je suis pas plus fin, là. Moi, Washington, j'étais convaincu que la seule raison d'être des Capitals cette année, ça aurait été de donner des buts à Ovechkin pour qu'il rejoigne et rattrape et dépasse Gretzky. Alors, je me suis mis un doigt dans l'œil jusqu'au coude parce qu'ils ont une saison exceptionnelle. Mais la transaction qui a amené JT Miller avec les Rangers a donné un souffle nouveau à cette attaque-là. Il avait besoin de brasser la soupe, ils l'ont brassé. Shesterkin se rend compte que peut-être que le club en avant de lui va jouer. Puis Martin Shesterkin, puis Martin Biron, Shesterkin me semble, il est excellent. C'est un très bon gardien de but, mais j'ai l'impression qu'il se dégonfle quand il voit que les chums en avant de lui ne veulent pas jouer. Alors, le fait que l'équipe joue mieux devant lui, pour moi, va être une source de motivation dont il avait grandement besoin. Et je regarde les Devils et moi, je me dis qu'ils vont être rejoints et dépassés par les Rangers. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les clubs comme le Canadien qui se battent parce qu'ils pensaient qu'il y avait deux places repêchées. Mais là, les Devils sont tellement en avant, ben tellement, pas un gros coussin, mais ils ont quand même une avance qui va leur permettre de combler la perte de Jack Hughes et de demeurer parmi les clubs repêchés, ce qui va sortir les clubs de la division Atlantique. Et ça, c'est une grosse surprise pour moi, parce que j'étais convaincu en début de saison qu'il y aurait cinq clubs de la division Atlantique en série, dont les Red Wings de Détroit. Il me semble, en tout cas, que j'avais mis Détroit là. Il faudrait que je revérifie sur mes prédictions initiales. Et là, ça va faire mal parce que ça va être cinq clubs de la division métropolitaine, probablement. Et ça va venir compliquer la situation. J'ai gardé Columbus parce que c'est la plus belle histoire dans la Ligue nationale cette année, les Blue Jackets. Dean Evason fait un job phénoménal. J'ai déjà mon vote de première place accordé à Werenski pour le trophée Norris. Alors, tout va bien. J'aimerais ça qu'il puisse rester là, ne serait-ce que pour récompenser l'organisation pour la tenue qu'ils ont été en mesure de maintenir malgré tous les problèmes et malgré les blessures, parce qu'il manque du monde là, en ce moment à Columbus. Alors, c'est pour ça que je suis allé de ce côté-là.
Je suis quand même faberglasté. Les Rangers sont à 5 points des Devils. Là, vous autres, bing, bang, pouf, vous rattrapez ça.
Ouais, mais vous, toi, là, Martin, là, comme moi, là, t'as-tu confiance à Markstrom si l'équipe en avant,
là, tu
si l'équipe en avant ne marque pas des buts puis s'ils n'ont pas Jack Hughes? C'est pas la même chose, là.
Là, tu viens jouer dans mon bobo. Là, tu sais ma faiblesse pour Markstrom.
C'est ça.
T'es de même, toi.
Mais tu sais, les Devils sont allés chercher aujourd'hui Brian Dumoulin à San Jose. Non, pas vrai, à Anaheim, pardon. Et puis, les Ducks vont garder la moitié de son salaire. Donc, ça, c'est important. Là, il y a Dougie Hamilton qui est sur la touche. Ils viennent de placer le nom de Siegenthaler sur la liste des blessés à long terme. Ça m'a surpris parce que la dernière fois que les Devils sont venus, on se faisait dire que Siegenthaler, c'était une question au jour le jour, là. Alors, j'ai été bien, bien surpris d'apprendre ça aujourd'hui. Mais Dumoulin va les aider. Mais c'est sûr que la perte de Jack Hughes est immense. Et attention, il reste moins de 24 heures. Mais Tom Fitzgerald va probablement faire quelque chose pour pallier la perte de Jack Hughes, là. Alors, est-ce que il y a des centres disponibles autour de la Ligue nationale? La réponse est oui. Il pourrait aller chercher Brock Nelson, l'autre bord du fleuve Hudson, et le traverser des marécages de East Rutherford, puis ça donnerait tout de suite une bouée de sauvetage aux Devils, mais il y en a d'autres des joueurs de centre disponibles. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver là-bas.
Hein, peut-être Antonin. Ce sera un dossier à suivre. Ce sera un dossier à suivre. Mais vous m'avez.
Mais les Rangers, Martin, les Rangers sont en ascension.
Mais ils vont faire quelque chose, les Rangers aussi. Ils viennent de transiger Riley Smith à Vegas pour Brendan Brisson, puis un choix de troisième, je crois. Fait que, tu sais, il y a une place, là. Ils vont aller chercher quelque chose d'autre à l'attaque, d'après moi.
Écoute,
là, on est Kreider est blessé aussi. Tu sais, un joueur de profondeur. Un gars comme Ricard Raquel serait parfait pour les Rangers.
Faut moi, pas qu'il laisse aller Pittsburgh. Hey, Sidney Crosby va rentrer dans le bureau, va gueuler à Carl Dubas.
Il va dire. Mais écoute, son nom est vraiment associé à bien des places. Alors,
oh oui.
On s'entend sur une chose, Martin. Tu as raison de dire que les Pingouins seraient un peu fous de l'échanger, à moins qu'il y ait un bon retour. Mais un club comme les Rangers, comme les Devils en ce moment, ont tellement un besoin urgent que peut-être qu'ils pourraient se montrer assez généreux pour que Dubus puisse dire à Crosby, garde, j'avais pas le choix à cause de ça.
Dubus,
peut-être
c'est
un
bien.
Brandon Tanev à New York.
Ah! Moi, j'haïs pas ça.
Ah, lui, écoute, c'est un gars de série. Il jouera pas d'ailleurs ce soir, Tanev, avec le Kraken de Seattle. Dossier à suivre. Zibanejad est rendu à droite de JT Miller. Donc, on peut se permettre même ce luxe-là du côté des Rangers de New York.
Ils l'ont mis au centre une game dans les 10 dernières. Je pense que c'était la game. Ils ont perdu 8-2 contre les Sabres. Ils l'ont remis à l'aile. Ça n'a pas été long.
Pour vrai. Puis, tu sais, en série, tu ne gagneras pas avec Zibanejad. Fait que. Anyway.
Mais Miller, c'est un stud.
Miller, il est fatiguant. Il est peut-être pas. Comme diraient les anciens gars qui faisaient nos jobs, les gars, là. Ça prend pas juste des buveurs de lait. Ça prend des hors-la-loi un peu.
Non, non. Et puis, moi, j'ai donné déjà des votes pour le Trophée Hart avec tout ce qu'il était en mesure de faire à Vancouver. Puis, il y a du monde qui me disait, t'es fou, il y a de la dissension dans ce club-là à cause de lui. OK, regardez ce qui est arrivé. Regardez Pettersson, là, qui il trouvait qu'il prenait trop de place. Miller a plus de points que Pettersson a tiré au but depuis qu'il a eu les changements.
Ouais, je l'avais fait passer.
Alors, tu sais.
Hey, les gars, on a le temps pour une dernière. Vous voulez Rantanen ou vous voulez Julien Brisebois?
Moi, je,
ah, je prends Julien 5 jours par semaine, puis 4 fois le dimanche.
Lightning de Tampa Bay a eu l'avantage dans la transaction Gourde-Bjornstrand. Absolument, pas peine tout. Je vais commencer avec Marty.
Absolument, mais je n'haïs pas le retour pour Seattle. Là. 2 choix de première ronde, 1 choix de deuxième ronde. Mikey et Simon, tu es un bon joueur de profondeur. Mais le Lightning s'est dit, garde. Floride font leurs échanges. Floride au centre, ils ont Barkov, Bennett, Lundell comme l'année passée. Nous, il nous manque un joueur de troisième centre. Là, c'est Toronto qui lui manque un joueur de troisième centre. Mais le Lightning se ramasse avec Point, Cirelli puis Gourde comme lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley puis Bjorkstrand en plus. Je pense que le Lightning a gagné ça. Puis Julien Brisebois, là, ses 2 derniers choix de première ronde, là, il y en a eu 2 dans les 7 dernières années, puis il n'y en aura pas un autre avant 2028 au minimum. Là. C'est incroyable ce qu'il fait.
Ah non, écoute, il maximise ses choix repêchage, comme il l'a dit en point de presse. François, je te lance la question. Le Lightning a eu l'avantage dans la transaction Gourde-Bjornstrand, absolument pas pantoute.
Moi, j'ai répondu pas pantoute, et la raison pour laquelle j'ai répondu pas pantoute, c'est que cette transaction-là est l'exemple parfait de 2 équipes qui ont des besoins différents. Les 2 GM se serrent la main en visioconférence, puis disent merci mutuellement. Les 2 clubs sortent gagnants et grandis de ça. L'an dernier, quand Julien Brisebois a donné des premiers choix de première ronde pour Tanner Janot, ça y a sauté d'en face. Ça n'a pas été efficace. Là, il est retourné chercher des joueurs qui ont plus l'ADN de son équipe. D'ailleurs, Gourde était là pour gagner. Alors, c'est une plus-value pour le Lightning. Il a fait la même chose avec Ryan McDonagh, qui est allé chercher l'été passé, dont il s'était départi à cause du contrat. Il ne s'était pas départi du joueur, mais du contrat. Alors, on comprend très bien ce qu'il a fait dans cette transaction-là. Seattle, ils se disent, nous autres, là, on ne gagne pas. On a un club qui est jeune. On va ramener d'autres choix au repêchage, des premiers choix. Et puis, ils sont allés un peu plus loin, 26-27, ce qui veut dire que la fenêtre d'opportunité du Lightning qui est là, en 27, elle va peut-être avoir diminué et ce premier choix-là pourrait être mieux, tant qu'il n'est pas top 10, parce que c'est 2 choix de première ronde protégés top 10. Alors, moi, je trouve que les 2 GM là-dedans ont fait un travail exemplaire.
Je vais prendre la question d'un auditeur. Il va m'écrire son nom. Je n'ai pas son nom présentement. Là, 581, c'est Éric de Sainte-Julie. Il vient de me répondre. Okay. Est-ce que c'est le même Yanni Gourde qu'ils sont allés chercher, qu'ils avaient laissé partir? Parce que Yanni Gourde joue d'une façon très impliqué, très physique. T'es rendu sur une 4 avec le Kraken. Est-ce le même Yanni Gourde qu'ils ont laissé partir il y a 2-3 ans?
Oui, mais tu sais, Gourde il était blessé aussi. Là. Il s'est fait opérer une hernie sportive. Il vient de revenir. Il va se ramasser à Tampa, puis ça va être le vieux... tu sais, il appelle ça un playbook là, en football. Là, tu te retrouves avec ton ancien playbook. Là, il va revenir le même joueur qu'il était. À Seattle, il y avait des besoins différents, puis il essayait de jouer un peu différent.
OK. François, d'accord avec ça?
Je suis d'accord avec ça, puis je vais rajouter 2 éléments qui sont importants. Le travail de c'est Jamie Pocher qui était à Montréal l'autre soir, qui est dépisteur professionnel pour le Lightning. Un des et ses partenaires sont allés voir pour avoir la certitude que ils vont être capables de retrouver sensiblement le même gars. Il a vieilli, donc c'est sûr qu'il n'est pas pareil. Et l'autre qui a son mot à dire, c'est l'entraîneur-chef. Combien de fois t'as entendu des entraîneurs-chefs dire « Amène-moi-le, je le connais, je vais être capable de le faire produire. » Bob Hartley a fait ça souvent. Tous les coachs de la Ligue nationale font ça souvent. Il y a des transactions qui sont conclues dans la Ligue parce qu'un coach dit « Hey, ce gars-là, amène-moi-le, moi le faire produire. Amène-moi pas lui, puis lui, puis lui, je les aime pas. Amène-moi lui. Amène-moi Gagnon. Moi, il donnait des coups de pied dans le derrière, c'est le même qui marche, puis vous allez voir,
Ah
il va
oui,
marcher avec moi. »
Gagnon, là, les coups de pied. Ah oui, donc, ça presse.
Il aime ça.
Les gars, je vous laisse aller. Bonne soirée de travail. Bon match ce soir, Canadien Oilers. C'est à 21h. On va se coucher tard, puis se lever de bonne heure, parce qu'il y a comme une journée des transactions demain.
Ça marche, salut.
Je sais que tu vas regarder ta gang de chum RDS, là, mais si tu veux me voir dans les entraques, le Flip Situation, je suis là en studio à soir.
Parfait.
Ben, ils iront te voir au deuxième, parce que c'est moi au premier, correct?
OK, toi au premier. Moi, je vais t'écouter dans le premier aussi. Je vais prendre le premier off.
Je vais mettre mes deux TV, les gars. Salut!
Parfait, bye!
Salut, bye! Salut. Bye.